Bon, alors même si je vais vous parler, effectivement, j'insisterai sur la reconstruction des asiles d'Armentières et de Bailleul, je vais vous faire un petit tableau quand même de l'évolution de l'architecture asilaire, parce que bien évidemment, la reconstruction des deux asiles en question est incompréhensible sans faire un peu un panorama d'histoire. Et en plus, je dois dire, Dominique Véreux est au courant, c'est quand, il y a quelques années, avec mon service photographique, j'étais venu faire les photos d'archives de Bailleul, une sous-directrice, pour des raisons futiles, m'a interdit de faire les photos. Ce qui fait que finalement, jusqu'à cette époque, je ne dispose toujours pas des photos de l'asile. Et j'ai dû vite fait ce matin faire scanner une carte postale, qui est le seul document que j'ai, ancien, montrant une vue aérienne de l'asile. Vous voyez, quelquefois, on se heurte malheureusement à la bêtise administrative. Mais j'insiste là-dessus parce qu'en 30 ans de carrière, ça m'est arrivé une fois. Vous voyez, bon. Donc voilà, en fait, je ne vous parlerai pas, si vous voulez, il y a une histoire de l'aliénation mentale sous l'Ancien Régime, je n'en parlerai pas. Parce que donc, on doit parler d'à peu près dans 20-25 minutes, parce que ça m'entraînerait trop loin. Comme vous le savez, le Nord-Pas-de-Calais avait comme particularité avec la Provence d'avoir deux établissements qui remontaient donc 17e et début 18e. Alors pourquoi le Nord-Pas-de-Calais et la Provence, je n'en sais rien, mais c'est un fait, donc voilà. Et dans le reste de la France, il n'y avait pas grand-chose. Et donc les malades mentaux, qu'on appelait à l'époque fous ou insensés, étaient dans les établissements les plus divers, en général dans les hôpitaux généraux, quelquefois dans des hôtels-dieux, parfois dans les prisons. Et c'est souvent dans les prisons, comme l'a constaté Squirolle, qu'ils étaient les mieux traités. Donc vous voyez, il y a comme ça des paradoxes. Alors, je vous montre là comme premier exemple un des premiers plans cohérents de construction de loges pour les fous, qui date, je crois, de 1788, c'est à la veille de la Révolution. Ce plan cohérent, vous voyez, c'est les loges anciennes sont en noir, c'est une convention architecturale, et les loges à construire sont en violet. Donc c'est un ensemble très important de loges, construit par un architecte qui s'appelle Viel, qui était l'architecte de l'hôpital général de Paris. Quand j'ai l'hôpital général de Paris, c'était Bicêtre, la Salpêtrière et la Pitié. Donc c'était ces trois grands ensembles qui regroupaient quelque chose comme 8 à 10 000 personnes. Mais évidemment, il y avait les insensés, mais majoritairement, c'était des personnes sans ressources, orphelins, vieux couples, veuves, etc. Donc c'est un peu, pour reprendre l'expression de Foucault, c'est un peu l'expression du grand renfermement de Louis XIV, même si je pense que Foucault a dit une connerie. Mais enfin bon, ça c'est mon opinion personnelle, mais qui est de plus en plus partagée par les historiens de l'assistance. Donc on entreprend une vaste reconstruction des logements pour les fous. Alors, faut savoir que ces loges, c'est évidemment, les gens étaient enfermés dans des loges qui font à peu près 4 mètres carrés, puisqu'ils ont conservé pieusement quelques loges à la Salpêtrière. Mais c'était quand même un progrès, parce qu'il faut savoir que quand on lit les descriptions anciennes, comment des malades pouvaient être entassés par quelquefois centaines dans certains dortoirs où il devait régner sans doute une odeur absolument infecte. C'était un progrès, et c'était un progrès notamment dans le cadre de la maladie mentale, puisqu'étant dans des loges individuelles, ils ne pouvaient pas s'entretuer, ce qui était bon, parce qu'il y avait quand même des fous dangereux, et ceux qui étaient dans des loges étaient en principe les plus dangereux. Il faut savoir que cette reconstruction a été très importante, puisqu'il y avait à la fin des travaux quelque chose quand même comme 750 personnes qui étaient enfermées dans des loges. Oui, c'était considérable. Sachant que la Salpêtrière était le plus grand hôpital d'Europe, avec entre 6 et 7 000 personnes. Mais comme je l'ai dit au départ, c'est un hôpital général, donc en fait c'était plus un rassemblement de la misère qu'un véritable hôpital. Et les vrais malades étaient enfermés, étaient mis dans une infirmerie qui regroupait quelques dizaines de lits seulement. Ah merde. Ça c'est. Je me suis trompé, mais ce n'est pas très grave. C'est pour vous montrer le plus ancien établissement pour fous que j'ai visité, qui se trouve dans la ville de York et qui date des années 1770. Vous voyez, ça ressemble à un château anglais. Et dans les textes ultérieurs, parce que j'ai trouvé un texte d'un un Italien, qui dit que finalement, ce qui est très bien dans ce bâtiment, c'est que finalement, ça ne ressemble pas à un hôpital. Vous voyez? Et c'est quelque chose qu'on retrouvera de façon récurrente dans l'histoire de l'architecture asilaire, c'est faire en sorte qu'un hôpital ne ressemble pas à un hôpital. Vraiment, je ne comprends pas ce qui se passe. Attendez. Est-ce que c'est... Non, là, attendez, je vais revenir en arrière. Parce que j'ai déjà eu ça avec des. Quand je fais des diaporamas, c'est-à-dire qu'en fait, pour des raisons que j'ignore, c'est la dernière photo qui se met en premier. Attends, on va y arriver, on va y arriver, ne vous en faites pas. Voilà. J'espère par contre que ça va marcher en sens inverse. Voilà. Donc pour vous montrer donc une carte postale ancienne que j'ai acquise il n'y a pas très longtemps, qui montre l'état des loges de la Salpêtrière. Vous voyez, c'est des bâtiments en rez-de-chaussée avec une porte, une fenêtre et une galerie pour que les gens puissent se promener quand il y avait des intempéries. Alors cette architecture était en fait celle qu'on a rencontrée dans les hôpitaux généraux d'Ancien Régime dont je vous parlais, c'est-à-dire la modernité de l'époque, c'est-à-dire au XVIIIe siècle. Alors les choses vont changer décidément, il y a un problème je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Si à chaque fois que j'appuie sur un bouton, on revient au début. Parce que là, je ne peux pas continuer comme ça à chaque fois. Ben, j'aimerais avoir la figure 3 et non pas des choses qui ne sont pas classées. J'ai déjà eu ça lors d'un colloque il y a quelques années où c'est en général quand on passe de Windows à Mac où l'ordinateur fait n'importe quoi. Ben, il faut remonter. J'espère que ce n'est pas à chaque fois, hein, parce que. Oui, mais c'est Bayonne, mais. Disons que c'est bon, on verra. Donc, les choses vont changer avec Esquirol, qui était le premier à définir avec des plans ce qu'était une architecture pour malades mentaux. Alors, vous voyez, donc, ça, c'est le plan esquirolien type. Qui a été réalisé à l'asile de Saint-Thion à Rouen. Et pour la petite histoire, je participe en ce moment à un séminaire sur le balnéaire, et le séminaire se tient dans ces bâtiments. Mais par contre, toute la partie psychiatrique a été détruite. Alors vous voyez, l'idée d'Esquirol, c'est faire en sorte que les gens soient enfermés, mais de pas avoir l'illusion de la liberté. Donc ces bâtiments forment des U, donc vous voyez, ouverts sur un côté, mais ouverts par un portique, fermés par des grilles. Donc en fait, ils voyaient la campagne environnante, mais ils étaient quand même réellement enfermés. Donc vous voyez, ça c'est un détail d'un U. Donc vous voyez, il y en avait cinq. Et ça, c'est le couvent d'Ancien Régime, dans lequel dans lequel se tient le séminaire où j'ai parti en Rouen, lequel je retourne ce soir. Donc Esquirol décrit donc ce système en 1818 dans un rapport célèbre au ministère de l'Intérieur. Et en fait, vraiment le vrai départ de l'architecture psychiatrique en France, c'est donc le rapport de 1818. Ce n'est pas la loi de 1838, puisqu'en fait, il y a plusieurs établissements à la suite du rapport d'Esquirol et à la suite d'une circulaire du ministère de l'Intérieur de 1919, ont construit donc plusieurs hôpitaux, plusieurs asiles d'aliénés en France. Voilà. Donc ça, c'est pour vous montrer les coupes élévations d'un pavillon esquirolien. Vous voyez, c'est des bâtiments bas qui avaient l'avantage, puisque c'est des bâtiments sans étage, que les fous ne pouvaient pas se défenestrer. Oui, je veux dire, l'avantage d'un bâtiment bas, c'est que les fous, du coup, ne pouvaient pas se défenestrer. Et c'est bien dit dans les textes d'Esquirol. Alors, en fait, les conceptions esquirolienne n'aura pas une très longue pérennité. Pour une raison très simple, c'est que ses collègues ont très vite critiqué le système en disant ces bâtiments bas coûtent cher, ils sont difficiles à distribuer, parce que vous voyez, ils sont complètement indépendants les uns des autres. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous voyez, c'est le problème de distribution tout bête, le linge propre, le linge sale, les repas, etc. Dans des bâtiments parfaitement isolés, effectivement, ça pose des gros problèmes d'intendance. C'est plus difficile à chauffer, c'est plus difficile à garder. Donc, en fait, il n'y a eu que deux ou trois établissements en France suivant cette conception. Et donc, la conception ultérieure vient de Scipion Pinel, qui est le fils du célèbre Philippe Pinel, qui, en fait, revient au système pavillonnaire qui est conçu par Thenon à la fin du XVIIIe siècle. Donc, le système pavillonnaire, c'est en fait, vous avez une cour au centre avec des pavillons de part et d'autre. Vous voyez, là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Donc, vous en avez 5 de chaque côté. Et au centre se trouvent les bâtiments, on peut dire les services généraux, donc la chapelle, les bains, la cuisine et l'administration. Et en fait, c'est ce plan qui donc sera le modèle asilaire en France pendant à peu près 150 ans. Ça a une extraordinaire pérennité. Alors ce plan est réalisé la première fois au Mans. Donc vous voyez, ça c'est le plan de l'asile du Mans qui commençait en 1828, donc vous voyez, 10 ans avant la loi de 1938, et par chance qui a été préservé grâce à une protection monument historique il y a quelques années, parce que le maire n'avait qu'une seule envie, c'est détruire tout ça pour faire un lotissement. Il faut savoir que c'est à quelques centaines de mètres de la gare. Donc voilà une vue actuelle, vous voyez la photo n'est pas très bonne, c'est une photo personnelle, en plus il faisait gris ce jour-là, donc vous voyez c'est une architecture que je qualifierais de architecture qui était très à la mode dans ces années-là, vous voyez de l'architecture rurale de la campagne romaine, vous voyez une architecture très simple, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas de décor, avec une opposition entre maçonnerie en moellon et avec un petit peu, vous voyez, des arcs en briques. Ça, on trouve ça également beaucoup dans des parcs et jardins de l'époque de la Restauration Louis-Philippe, donc architecture de la campagne romaine. Alors, parallèlement à la publication de Scipion Pinel, qui date de 1836, donc vous voyez qui est en fait postérieure à la construction de l'asile du Mans, mais on sait très bien que les aliénistes discutaient entre eux et qu'en fait tout ça a été, on peut dire, conçu avant la publication, puisque évidemment l'architecte du Mans, on en est à peu près certain, n'a pas créé ça de toute pièce. Il a créé ça certainement après s'être enquéri auprès des grands aliénistes parisiens, Esquirol et Scipion Pinel notamment. Alors en 1835 est créée une inspection générale des asiles de l'aliéné. Ça aura une très grande importance, notamment pour Bailleul. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est le seul domaine de l'assistance dans lequel il y avait un inspecteur général auprès du ministère de l'Intérieur. Dans le domaine des hôpitaux, des hospices et des lazarets, il n'y avait aucune administration centrale. Et l'inspecteur, suivant son poids, a pu influer ou non sur la conception des architectes qui construisaient dans les différents départements. Et voilà, ça, c'était un plan, on peut dire, un plan modèle qui a été défini par le premier inspecteur, qui s'appelle Férus, qui était donc aliéniste à Bicêtre, et c'est lui qui a développé le travail dans les asiles de l'aliéné. Il s'est aperçu que les aliénés travailleurs guérissaient mieux que les aliénés non travailleurs, et même suivant les classes sociales, puis comme les bourgeois ne travaillaient pas, quand les bourgeois devenaient fous, ils guérissaient moins que les ouvriers, parce que les ouvriers étaient au contraire en travail. Vous voyez, c'est une observation très intéressante qui avait été faite au départ par des alénistes anglais. Férus est allé en Angleterre, a donc importé cette conception du travail dans les asiles, et c'est pour ça que tous les asiles, dont Bailleul, avaient une ferme importante. C'est dans la suite. Mais par contre, Férus n'a pas réussi à obtenir une chose, c'est à ce qu'on construise des asiles panoptiques. Vous savez ce que le panoptisme, c'est-à-dire qu'on peut tout voir d'un point central. En l'occurrence, ici. Donc il a fait un plan modèle qui a été publié à la suite de son retour d'Angleterre, et en fait, par chance, son plan n'a jamais été suivi en France. J'y remets, il a été suivi. S'il n'a pas été suivi, c'est non pas par, on peut dire, par négligence, mais c'est parce que tous les aliénistes sont montés au créneau pour empêcher qu'un seul plan de ce type soit réalisé. Ça, c'est la publication est de 1836 également. Alors, c'est pour montrer un exemple, parce que ce que n'ont pas fait les Français, les Anglais l'ont fait, et a fortiori les Américains. Bien sûr, dans les prisons, mais ça, c'est un, vous voyez, c'est un asile d'aliénés du Pays de Galles, que j'ai fait reproduire dans un bouquin. Donc, vous voyez l'exemple du panoptisme, qui n'est pas dire un vrai panoptisme, parce que dans le vrai panoptisme, en principe, du point central, on peut tout voir. Mais vous voyez que là, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que si vous regardez le plan de près.
Ici, là, vous avez des escaliers. Donc, habituellement, on ne peut pas voir à travers un escalier.
Ou bien, il faut que l'escalier soit très ajouré. Alors, quand je vous dis qu'il n'y avait pas eu en France, c'est vrai. Mais par contre, il y a eu un exemple de plan rayonnant, vous voyez, ce qui n'a rien à voir avec le panoptisme. Rayonnant, ça veut dire que les bâtiments sont, donc, rayonnent à partir d'un endroit central. Vous voyez que l'endroit central, c'est une place avec une église. Bien sûr, rien à voir avec la surveillance. Alors, c'est l'asile de la ligne de Mont-de-Vergue, qui est Mont-de-Vergue, c'est un lieu dit sur l'ancienne commune de Montfavet, qui a été absorbé par Avignon il y a eu quelques dizaines d'années. Et je sais que moi, ma famille est originaire du Vaucluse, et on disait aller à Montfavet, comme dans le coin, on devait dire aller à Bailleul. Donc il a été construit, il existe toujours, et c'est un des rares hôpitaux psychiatriques dans lequel on peut imaginer, c'est pour ça qu'il est rayonnant, qu'il a été conçu non pas par un aliéniste, mais par un architecte. Parce que les architectes aimaient beaucoup les plans rayonnants. Et c'est pour ça que les médecins devaient s'opposer à eux. Alors, après Férus, donc je dis qu'il n'a pas réussi à obtenir que le plan rayonnant importé d'Angleterre soit réalisé en France, est nommé en 1848 Maximien Parchappe. Alors Maximien Parchappe est à la fois un grand aliéniste qui a beaucoup publié dans son domaine, et en même temps c'est quelqu'un qui avait des conceptions esthétiques dans le domaine de l'architecture. Et il était contre le système panoptique, mais il était aussi contre le système pavillonnaire, parce qu'il trouvait que ça faisait un peu désordre, le système pavillonnaire. Et il aimait bien les beaux alignements de bâtiments. Et donc, on sait très bien, parce que là, les archives sont conservées, que c'est lui qui a déterminé le plan qui est très légèrement antérieur à celui de Bailleul, de l'asile de Navarre, qui se trouve dans le département de l'Eure, c'est près d'Évreux, qui existe toujours, je l'ai visité il n'y a pas longtemps. Donc, vous voyez, on a un système dans lequel les pavillons sont englobés dans des bâtiments jointifs. Vous voyez, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, tous les pavillons de malades sont dans un seul alignement. Le bâtiment plus foncé au centre, c'est en fait l'administration. Et donc, la chapelle est reléguée donc à l'arrière. Et donc, vous voyez, ça fait un très bel alignement qui doit faire quelque chose comme dans les 300 mètres de long. Je ne dis pas que c'est Versailles, mais c'est très, très impressionnant. Et c'est parfaitement conservé. Notamment, vous voyez, au premier plan,
les sauts de loup sont encore conservés.
Vous savez ce qu'est un saut de loup ? C'est un fossé. C'est un fossé qui permet de faire croire à quelqu'un qu'il peut le franchir. Et en fait, il ne peut pas. Parce qu'en fait, vous avez une pelouse qui descend brusquement en pente très raide. Et en face, vous avez un mur de 3 mètres de haut. Donc, la pelouse est à la même hauteur que les jardins environnants. Mais le mur de 3 mètres est infranchissable. Et donc, c'était très développé dans les asiles alignés français du 19e siècle. Donc, vous voyez, les sauts de loup sont encore conservés. Et donc, Maximien Parchappe, qui donc est actif de 1848, époque de sa nomination, jusqu'à sa mort en 1866, et donc là, est vraiment l'inspecteur qui réussit à faire partager ses conceptions esthétiques par les médecins des départements et par les architectes, qui d'ailleurs n'en avaient pas toujours le choix, parce que en tant qu'administration centrale, il avait donc il était ami avec les architectes inspecteurs du Conseil des bâtiments civils, donc soit par sa notoriété, soit par l'autorité des bâtiments civils, qui avait une tutelle sur toute l'architecture publique en France, il obtenait en général gain de cause. Donc on peut supposer, alors Madame Verros m'a dit que dans les archives, on voit mentionner Parchappe, mais on voit pas trace de son intervention, on peut supposer que s'il l'asile de Bailleul était aussi monumental dans son architecture, c'est vraisemblablement parce qu'il procédait donc des conceptions de Maximien Parchappe. Et bien évidemment, l'architecte qui a fait les plans ne pouvait qu'abonder dans son sens. Parce qu'on demande à un architecte de faire une belle architecture, en général, il est toujours d'accord. Et c'est pour ça que l'asile de Bailleul était aussi monumental. Alors bon, évidemment, ce n'est pas du tout la même conception qu'à l'asile de Navarre, puisqu'il y a des formes courbes, mais c'est quand même quelque chose dans lequel la monumentalité était donc très apparente. Donc vous voyez, vous avez quand même quelque chose avec des élévations monumentales, des bâtiments qui sont rythmés par des avant-corps couronnés par des frontons. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est ça formait un ensemble. Vous voyez, comme la plupart d'entre vous connaissent Saint-Venant, par contre, l'exemple type de l'hôpital psychiatrique pavillonnaire. Alors, Maximilien Parchappe meurt en 1866 et tout de suite les choses basculent, puisque les inspecteurs qui lui ont succédé, qui étaient au nombre de trois, il y avait Duménil, Lunier, puis j'ai oublié le troisième, changent complètement de conception et adhèrent, visible, même si on n'a pas laissé d'écrit formel, adhèrent à la conception pavillonnaire. Et donc, l'un des premiers qui est construit sur cette conception, c'est tout bêtement l'asile d'Armentières, que je vous montre ici. Ça, ce sont les magnifiques plans originaux qui sont conservés donc aux archives départementales. Vous voyez un plan aquarellé. Vous avez un double alignement de pavillons, avec toujours, suivant le système asilaire français, qui apparaît donc sous l'influence de Scipion Pinel. Donc, double alignement de pavillons, et au centre, donc, l'administration, la chapelle, les bains, les cuisines. Donc, vous voyez le. Pour les malades payants, puisque le système asilaire avait comme particularité, c'est qu'il y avait trois catégories de malades, peut-être même dans certains cas quatre. Donc en fonction du prix qu'on payait, on était plus ou moins bien logés et plus ou moins bien nourris. Et donc les malades payants de la première classe avaient droit quasiment à des petits pavillons individuels dans lesquels ils avaient une chambre et même une deuxième chambre pour leurs domestiques, vous voyez. Et donc à Armentières, ça a été réalisé. Mais ce qui était très précieux pour le budget des asiles, parce que grâce à ces malades payants, on pouvait donc améliorer l'ordinaire des malades non payants. Donc vous voyez, c'était donc un plus pour les finances de l'asile. Alors je vous montre aussi un autre exemple, puisque quelqu'un en a parlé ici, c'est l'asile de Durie-les-Amiens, qui a été construit à partir de 1890 ou 91, je crois. Donc ça se tirait d'une revue d'architecture, dont le nom est là. Et si je vous le montre, c'est parce que c'est un système pavillonnaire dans lequel on a, contrairement à Armentières, qui est un vrai pavillonnaire dans lequel les pavillons sont indépendants les uns des autres, on a réintroduit un peu de fonctionnalité. Vous voyez, les pavillons sont reliés entre eux par des galeries. Mais toujours au centre, vous avez le même système, donc administration, chapelle, cuisine, bain, usine, etc. Et vous voyez, il y avait une telle pérennité de système en France que Parchappe lui-même a appelé ça le système asilaire français. Alors, Durie-les-Amiens, par ailleurs, si je vous montre celui-là plutôt qu'un autre, parce qu'il y en a eu des quantités, et Saint-Venant en fait partie, c'est parce qu'après 1918, Durie-les-Amiens est montré comme modèle contre les modèles allemands, qui sont différents. Alors, voilà tout ça, puisqu'on revient un peu à la guerre. Donc, avant 14-18, il y a eu une certaine opposition entre aliénistes allemands et aliénistes français. Et il semble, même si on n'a pas de texte formel, on a beaucoup d'allusions, surtout après 1918 d'ailleurs, indiquant qu'en fait, les Français ont fait les asiles les plus somptueux, les plus modernes, les mieux équipés d'Europe, et on n'a aucune raison de suivre la remorque des Allemands. Et ce qui explique qu'avant 14-18, un seul asile d'aliénés sur le modèle allemand, c'est celui de Fleury-les-Aubrais, dont je vous montre là une gravure. Donc le système allemand était le suivant. Il fallait que l'hôpital ne donne pas l'impression d'être un hôpital. Donc il fallait que les pavillons soient dispersés dans les bois, que l'architecture de chaque pavillon soit différente de celui d'un autre pavillon et donner l'impression finalement d'un village dans un jardin anglais. Donc vous voyez, ça c'est d'où le nom d'asile-village. Alors le système est assez ancien puisque les Allemands ont développé ce système-là dans les 1880. Donc en France, il y en a eu un seul de construit qui était donc inauguré en 1913. Et en fait, ça commencera à se développer en France dans les années 1960. Presque, vous voyez, 100 ans après les Allemands, à cause toujours de cette, vraisemblablement de cette opposition franco-allemande. Alors je vous en montre un deuxième, mais qui est en France, mais qui est purement allemand, puisqu'il est en Alsace. C'est donc l'asile de Rouffach, qui est peut-être un des plus beaux exemples, vous voyez, d'asile-village qu'on puisse trouver en France. Il est parfaitement conservé. En plus, il est très, très bien construit, dans un style, vous voyez, un petit peu... Il faudrait voir des vues de détail, un peu, vous voyez, néo-alsacien, avec il y a du néo-baroque, du néo-rural alsacien. Mais c'est un très grand établissement de 1000 à 1500 lits. Et je crois qu'il vient d'être protégé au titre du monument historique, mais j'en suis pas sûr. Donc c'est le seul qui existe actuellement en France et qui a été construit en 1906. Alors là, je reviens donc à la guerre et donc à Armentières et Bailleul. Donc comme vous le savez, on vous l'a dit, ces deux asiles sont complètement détruits, quasiment à 100%, lors des combats à des époques différentes d'ailleurs. Et c'est vrai qu'en France, en dehors de Prémontré, peu d'établissements ont été rasés de cette façon-là. Prémontré a été seulement endommagé. Ce qui fait que se pose le problème de la reconstruction. Mais là, j'ai étudié la reconstruction dans d'autres cas de figure. Il faut savoir que l'État français, lors de la reconstruction, n'a eu qu'une seule idée en tête, et on peut le comprendre. Ils avaient quand même la dette française était énorme, notamment vis-à-vis des États-Unis. C'est que la reconstruction coûte le moins cher possible. Donc on a obligé tous ceux qui reconstruisaient, c'est pour ça que les villages sont construits sur des plans identiques, à construire sur les fondations d'origine. Il faut savoir que les fondations représentent à peu près 10% des frais de construction. Donc si on défalque 10% de milliards de francs, ça fait beaucoup. Donc c'est pour ça que finalement, les architectes qui en charge de la reconstruction, par exemple j'ai étudié le cas de Béthune, ont été obligés de construire sur les fondations d'origine. C'est pour ça que finalement, à Béthune, assez curieusement, on a une construction art déco et néo-originaliste avec un parcellaire médiéval. C'est pour ça que c'est des maisons qui font 5 mètres de large. Les architectes n'ont pas eu le choix. Ce qui n'a pas été le cas après 1945. Donc je ne comprends pas pourquoi je vois une vue aérienne avant... Enfin, peu importe. C'est bon. Donc, c'est pour vous montrer donc, la vue générale. Donc, vous voyez que sur cette vue générale, qui est une vue un peu biaise, vous voyez sur la droite, l'allée centrale avec le double alignement de pavillons. Donc, j'ai vu les archives anciennes d'Armentières. Je ne les ai pas fait photographier parce que les plans sont tous faux. Parce que l'architecte a eu visiblement l'ambition de faire une reconstruction suivant une autre typologie. On trouve tout, approbation de la commission des hospices, approbation préfectorale, et en fait, l'architecture a été autre. Et en fait, visiblement, il a été obligé d'utiliser donc les fondations anciennes, puisque vous voyez, donc là je vous montre, c'est pas le plan d'Armentières d'après 1918, c'est le plan de 1871. Vous voyez, là, j'ai pris un plan masse parce que le plan masse, vous voyez, est beaucoup plus lisible avec le double alignement de pavillons et au centre, vous voyez, l'administration, la chapelle, les bains, la cuisine, etc. Les bains sont dans le fond, je crois. Donc, vous voyez, et vous allez voir ce que ça donne actuellement. Vous voyez, alors il y a des petits détails. Vous voyez, par exemple, la chapelle est occupée par ce qui est maintenant la cuisine. Et dans le fond, vous avez la brasserie. Mais vous voyez, l'architecte a été obligé de respecter le double alignement et donc initial qui avait été donc entrepris à partir de 1871-72. Alors bien sûr, sur les côtés, il y a eu des extensions que l'on voit sur la première carte postale que je vous ai montrée. Mais en gros, la reconstruction des années 1925-1926 a suivi donc les fondations d'origine. Par contre, et la différence est de taille, c'est qu'alors que l'architecture des années 1872 était une architecture qui était, disons, une architecture qui n'a pas de caractère particulier. Après la guerre, comme ça a été le cas pour toute la ville de Bailleul, on a choisi du néo-régionalisme. Vous voyez, les pavillons ont des pignons à pas de moineau. Vous avez donc une utilisation de, même quelquefois, vous voyez, dans ce, ici par exemple,
des pignons chantournés. Donc vous voyez, il y avait une espèce de retour du néo-régionalisme en France, et donc qui a été notamment très très puissant après la guerre de 14-18. Vous voyez, on était encore dans ce nationalisme, il fallait retrouver notre identité, nos racines, et donc on a fait un néo-régionalisme qui était à l'encontre de ce qui existait, puisqu'on a la preuve dans l'exemple de la ville de Bailleul qu'il n'y avait pratiquement aucune maison de type flamand à Bailleul, c'est-à-dire que maintenant elles sont toutes comme ça. Donc vous voyez, donc on est allé au-delà de ce qui d'une vraie reconstruction, et ce qui fait que la ville de Bailleul a autant de charme d'ailleurs actuellement, plus qu'elle n'en avait avant la guerre. Alors sur l'asile de Bailleul, malheureusement, comme je vous l'ai dit au début, à cause de la bêtise administrative, je n'ai pas pu avoir accès au plan que j'avais pourtant vu et pour lequel j'avais pris rendez-vous avec le directeur. Mais par contre, dans le cas de Bailleul, vous voyez, je ne vais pas revenir au plan initial. Vous vous rappelez, il y avait un grand arc de cercle. Justement, on n'a pas eu vraiment à utiliser les fondations anciennes, semble-t-il. Est-ce que Bailleul était plus détruit qu'Armentières? Je n'en sais rien. Si vous voulez, je n'ai pas vu des plans après-guerre montrant l'impact des obus, comme j'ai le vu pour d'autres hôpitaux. On voit les trous d'obus et les traces de bombes. Par exemple, dans le sanatorium d'Elfaux, il y a un plan saisissant. On voit les impacts de plusieurs centaines de bombes de gros calibre. Vous voyez, je n'ai rien vu de tel. En tout cas, vous voyez que l'architecte a utilisé un plan qui est finalement le plan pavillonnaire, vous voyez, du système asile à français, alors que vous voyez, toujours pareil, l'administration au centre, à l'arrière-plan, c'est les cuisines, je crois. Hein. Non, c'est la chapelle, c'est ça? Excusez-moi, j'ai un trou, là. Le bâtiment qui est derrière l'administration? C'est les cuisines, hein, c'est les cuisines, donc voilà. Alors évidemment, on était dans une époque dans laquelle les chapelles n'étaient plus, on était après la loi de séparation de l'Église et l'État, n'étaient plus de mise. Mais donc, vous voyez, en fait, l'asile de Bailleul a été reconstruit suivant le système asilaire français. Je vous l'ai dit tout à l'heure que Durie-les-Amiens a été donné comme exemple. Donc finalement, on a construit Bailleul sur un système assez proche de Durie-les-Amiens qui datait d'il y a une quarantaine d'années. Et pourtant, ce qui était préconisé à l'époque par les inspecteurs, notamment Julien Régnier, n'était pas justement le système asile français. C'était un plan que lui-même avait conçu, qui était en fait une espèce de synthèse entre l'asile-village allemand et le système asile français. Parce qu'effectivement, il fallait faire du neuf, mais surtout, il ne fallait pas faire allemand. Et donc, le système qu'il préconise, ça c'est le plan type qui sera réalisé à peu près concomitamment à Bailleul et Armentières, à Ravenel dans les Vosges et à Lannemezan dans un département proche des Pyrénées. C'est ce qu'on appelle le système par zone. Donc en fait, on introduit un petit peu de plus. Vous voyez, le système est très symétrique, mais ce qui compte dans l'asile par zone, c'est la proximité du pavillon de soins par rapport à l'accueil. Donc en fait, les pavillons de soins actifs sont près de l'accueil, les chroniques sont un peu plus loin, les gâteux encore plus loin, et bon, vous voyez, donc on va depuis le centre du V jusqu'aux extrémités du V, vous voyez, depuis les aigus jusqu'aux chroniques. Voilà, c'est cette idée-là. Et ce système est réalisé. Donc vous voyez, ça c'est l'asile de Lannemezan, vous voyez, l'asile de Lannemezan, qui est un établissement, contrairement à Ravenel, il y a une toute petite différence, c'est qu'à Lannemezan, il y a des galeries de circulation aérienne, il n'y a pas à Ravenel, parce qu'on était encore dans cette idée de la circulation des miasmes, il fallait que les miasmes, qui ont une espèce de principe délétère dont l'air était censé charger, donc les miasmes, pour qu'ils soient plus facilement chassés par les vents, il fallait qu'il n'y ait aucun obstacle.
Donc, ces andouilles de médecins, il n'y a pas d'autre terme, pour éviter qu'il y ait des obstacles au vent, au lieu de mettre des galeries aériennes, mettez des galeries souterraines. Je peux vous dire que j'ai travaillé dans un hôpital comme ça. Quand vous faites 700 à 800 mètres dans une galerie souterraine pour amener un patient de la radio à tel autre, etc., ben vous poussez votre chariot dans un couloir dans lequel s'enfuient les cafards et les rats. Et sur le plan de l'hygiène, ce n'est pas terrible du tout. Enfin, toujours ça, c'est les délires aériens de l'époque. Il faudrait que je creuse un peu la question, mais il semblerait que ces délires aériens remontent, voyez, au texte, au corpus hippocratique, donc voyez, au 5e siècle avec Jésus-Christ. Donc voyez, on a fait des découvertes médicales au 19e siècle, mais les médecins étaient encore au corpus hippocratique, donc 2000 ans en arrière pour le système de la circulation de l'air. Donc tout ça pour expliquer que certains hôpitaux ont des galeries de circulation, en l'occurrence Lannemezan, mais à Bailleul et à Armentières, on n'en a pas mis, toujours avec cette espèce de vieille idée aériste. Et en fait, donc je vais m'arrêter sur cette chose, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que l'asile de village donc est conçu en Allemagne dans les années 1880, et on en a construit des quantités dans toute l'Allemagne, mais y compris également dans les pays de langue germanique, dans l'Empire autrichien, et également, je crois, quelques-uns en Angleterre, et il y en a un aussi également en Italie. Et en fait, dans les années 1950, ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle, avec la résistance, prend le pouvoir au ministère de la Santé et arrive à imposer l'asile village en France, ce qui fait qu'avec un décalage de 80 ans, on construit une vingtaine d'asiles villages en France, dont le modèle type est proposé par Civadon. Donc ça, c'est le modèle type de Civadon, et qui est édité, donc le modèle type est édité à Genève sous l'égide donc de l'OMS. Donc vous voyez, en 1956, je crois. Donc vous voyez, ça c'est le plan de Civadon, et qui sera notamment réalisé à La Verrière, qui est donc l'asile privé de la MGEN, qui est donc un des grands asiles d'aliénés bâtis dans les années 60, qui sera vraiment le modèle type. Et alors, ce qui est assez curieux, c'est que ces asiles-villages sont construits en France, alors que la circulaire de 1960 préconise autre chose que des asiles, c'est la sectorisation. Ce qui fait que pendant à peu près 10-15 ans, il y a eu en fait cette contradiction institutionnelle entre la sectorisation et les asiles-villages. Et si tant d'asiles-villages ont été construits, c'est parce que justement la sectorisation n'a pas été mise en place. Et entre la circulaire de 1960 et la sectorisation réelle, il s'est passé 15, 20 ans, voire 25 ans, puisque la véritable loi qui détermine la sectorisation, c'est la loi de 1985, qui là l'a vraiment mise en place. Donc vous voyez à quel point les conceptions des médecins et également les pesanteurs institutionnelles, ce fait que finalement on a en France des architectures asilaires extrêmement différentes, et je dirais même qu'on a même des conceptions à l'époque de Parchappe dans lesquelles c'est l'esthétique qui dominait. Donc vous voyez, c'est quand même très très curieux, alors qu'en général, dans la plupart des médecins du 19e siècle, on disait il faut que l'architecture soit sévère comme la misère, voyez, en faisant presque des rimes, voyez, puisqu'on parlait de rimes, sévère comme la misère. Donc, voyez. Et c'est pour ça d'ailleurs que certains asiles ont l'aspect de caserne. Et je pense que Saint-Venant en est un très bon exemple. Voilà, je m'arrêterai là. Je ne sais pas si vous avez des questions à poser.
Merci, Monsieur Lager. Je prends l'engagement devant tout le monde d'ouvrir les archives de Bailleul pour que Monsieur Lager puisse accéder aux photos de l'hôpital de Bailleul.
Mais je peux vous dire, après avoir transporté 150 kilos de matériel photo de deux étages sans ascenseur, se faire éjecter, ça fait un drôle d'effet.
Alors, je voulais donc, je réitère mon engagement. Oui. Il n'y aura pas deux étages à monter, il y a même juste deux pavillons à passer, puisqu'on a une exposition de l'hôpital pour les 150 ans de l'hôpital. Si ça vous intéresse, elle est d'ailleurs accessible, où toutes les photos de l'hôpital sont exposées. Donc voilà. Aucun problème et pas besoin de monter deux étages sans ascenseur. Je voulais peut-être terminer cette... À moins qu'il y ait des questions, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions auprès de Monsieur Lager sur cette présentation dont je le remercie? Je veux simplement signaler que Monsieur Lager était à Rouen hier, qu'il est revenu spécialement aujourd'hui pour cette conférence et qu'il repart à Rouen ce soir. Donc un merci tout particulier à lui pour cette présentation aujourd'hui.
Voilà, Oui, voilà, en fait, je tiens mes engagements, mais c'est vrai que j'étais étonné hier de me retrouver dans l'asile, le premier asile de Saint-Yon, ce qui a été construit en 1821, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, qui est en fait le premier établissement conçu spécialement pour la maladie mentale. C'était quand même assez émouvant, même si effectivement l'environnement était quand même, était inexistant, quoi, voilà.